Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Ces créateurs d'entreprises vont révolutionner le secteur textile. Ils viennent de lancer un pull 100% français, 100% recyclé. Les grandes entreprises textiles françaises ont disparu de notre économie. Aujourd'hui, ce sont surtout les TPE qui relancent la machine. On voit apparaître de petites marques qui misent sur le national, voire le régional. Mathieu Couaco, un des fondateurs de Opale, est notre invité. Avec son associé Clément Malavaux, ils ont inventé le pull du futur. On ne pouvait pas trouver vêtements plus écolos. Mathieu Couaco et Clément Malavaux, les deux fondateurs d'Opale, ont inventé, dont je le disais il y a un instant, le pull du futur. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous avez étudié à la Toulouse Business School. Quel âge avez-vous Mathieu ?
J'ai 24 ans.
24 ans, vous venez de lancer votre entreprise, bravo.
Merci.
Alors c'est à l'école que vous est venue cette idée de lancer Opale. Mais comment, tout simplement?
On est parti d'un constat simple avec Clément, c'est que l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie du pétrole.
Ouais.
Et aujourd'hui, on puise dans les ressources de la planète alors qu'il y a des ressources qui sont déjà disponibles, principalement des déchets en fait, et qui peuvent être recyclés en de tout nouveaux produits. Donc c'est attaqué donc aux vêtements, et on peut aujourd'hui, à partir de chutes de coton biologique, de bouteilles plastiques ou même d'anciens vêtements,
ouais,
faire de tout nouveaux vêtements.
Bon, donc on ne regardera plus jamais les bouteilles en plastique de la même manière. On va y revenir si vous le voulez dans un instant, mais vous parlez d'industrie textile qui est polluante. Pourquoi? De quelle façon? Alors bien évidemment, il nous vient en tête des images de pollution, pas forcément en France, bon voilà, en Asie par exemple. Est-ce que c'est à ça que vous pensez précisément?
Il y a beaucoup de choses, oui. Ce que vous dites en Asie par exemple, quand on pollue des rivières,
oui,
en Asie,
en fabriquant des jeans et autres.
Voilà, ces jeans après, ils sont quand même revendus en Europe. Donc c'est nos jeans en fait qui sont fabriqués là-bas. Les rivières, elles s'arrêtent, elles vont dans les fleuves, elles vont dans la mer, et les mers, elles s'arrêtent pas aux frontières. Donc en fait, quand on pollue en Asie, on pollue nos côtes derrière, bien sûr.
C'est ce qui vous a vraiment sensibilisé? Vous êtes allé voir sur place? Comment vous avez, eu l'envie vraiment de créer cette entreprise et de l'axer sur ce côté écolo, développement durable?
L'envie, elle vient donc du constat
dont
on vient de parler. Ainsi du fait qu'à tout problème, il y a une solution. Donc, il est possible de changer les choses. Il y a beaucoup de solutions. Le recyclage en est une. Et donc, autant prendre part à cette solution, essayer de la développer et de la démocratiser un maximum.
Et pourquoi être sensible à ça, justement? C'est difficile, hein, comme
c'est
question.
Difficile à justifier parce que ça me paraît logique. On
c'est
est 7 milliards à s'habiller tous les matins et... On arrive à des moments où, en ce moment, on parle du pic coton, c'est-à-dire que la production de coton ne va pas pouvoir satisfaire la demande.
Ouais.
On a asséché des mers comme la mer d'Aral à cause de la production du coton, parce que c'est une plante extrêmement demandeuse en eau. Il faut se pencher sur les solutions avant qu'il y ait aujourd'hui il y a déjà un problème, avant qu'il y ait un problème
beaucoup,
d'autant plus grave et beaucoup plus généralisé.
Majeur, oui, complètement, complètement. Donc vous aviez déjà une fibre écolo, une sensibilité particulière.
On va dire ça.
Voilà. Alors, comment vous fabriquez vos produits? Donc, on va reprendre ça depuis le début. Vous fabriquez aujourd'hui des vêtements,
oui,
avec des matières recyclées.
C'est ça. On a deux techniques de recyclage distinctes. Une première qui est faite en Inde, à partir de chutes de coton biologique qui sont récupérées à la découpe de vêtements dans les usines,
d'accord,
qui sont broyées et remises à état de fibre. On va venir les mélanger avec des bouteilles plastiques qui vont être aussi broyées et remises à état de fibre.
Ouais.
On va faire un tout nouveau fil, et à partir de ce fil, on peut faire des t-shirts, des sweats, des débardeurs, des robes. On peut tout faire.
Vous pouvez tout faire. Vous fabriquez comment et où?
Alors cette partie, cette technologie, elle est disponible en Inde. Donc on fabrique dans le sud de l'Inde, dans la région de Tamil Nadu, avec deux petites entreprises.
Ouais.
Une de 10 employés qui fait le recyclage donc, de ces matières premières, qui va transformer en fil. C'est une entreprise qui est entièrement approvisionnée en énergie verte, donc solaire, éolien. Après, il y a un deuxième atelier d'une trentaine de personnes qui va faire la confection des produits.
Donc vous voulez dire que vous êtes allé sur place pour rencontrer les acteurs?
Oui.
Comment se sont passés les premiers contacts?
Alors, c'est mon associé Clément qui a passé 6 mois là-bas,
ouais.
Pour monter toute cette chaîne de production et rencontrer donc tous les acteurs de la filière et voilà, échanger avec eux et pour aujourd'hui tisser la relation de confiance qu'on a avec eux.
Donc, rien aujourd'hui n'est fabriqué en France?
Alors, si. Ça, c'était pour la première technologie de recyclage. On a une deuxième technologie de recyclage qui, elle, est faite à partir d'anciens vêtements. Il faut savoir qu'en moyenne, on ne porte que 30% des vêtements qu'on a. Ça veut dire qu'on a 2/3 de nos vêtements qui dorment dans nos armoires à ne rien faire. Et je pense que tout le monde peut s'imaginer.
Non.
On a un t-shirt fétiche, une chemise fétiche, un sweat qu'on va mettre plus que les autres. Et sinon, en bas de l'armoire, il y a pas mal de vêtements qui dorment en attendant une occasion qui se présente
jamais. Autant
rarement.
Le dire. Oui.
Voilà. À partir de ces anciens vêtements, on peut les recycler et en faire de tout nouveaux vêtements. Donc, c'est ce qu'on fait en France, en partenariat avec le Relais qui se charge de
Bien
la collecte
sûr,
de ces
voilà,
vêtements.
Bien sûr, voilà, ce sont
les bornes blanches qu'on a dans la rue,
dans lesquelles on peut déposer des sacs, effectivement.
Tout à fait. On va pouvoir recycler donc ces anciens vêtements et en faire un fil plus épais que le premier fil avec lequel on fait des sweats. Et là, on va pouvoir faire, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, des pulls en maille, mais on peut très bien faire aussi des bonnets avec un fil en plus épais.
D'accord. Mais ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. On ne recyclait pas les vieux vêtements en France?
Alors, si, mais c'est très peu démocratisé.
C'est ça.
Nous, on travaille avec une entreprise dans le Tarn qui a ce savoir-faire, le recyclage d'anciens vêtements.
On peut les citer.
Et on fait la confection dans la Loire.
D'accord. Donc là, ça reste en France.
Donc ça, c'est entièrement fait en France. Et même, on va dire, partie sud de la France.
Alors, comment avez-vous approché les entreprises de recyclage dans votre démarche, pour leur expliquer votre démarche?
On est plutôt, on va dire, apprécié quand on arrive à leur rencontre, puisqu'ils se disent, voilà, c'est des jeunes qui ont envie de faire bouger les choses, voilà, ils comprennent, ils essaient de nous aider au maximum.
Uh-huh.
Donc on a pu tisser des liens de confiance aussi, que ce soit en Inde ou en France, avec nos partenaires.
C'est-à-dire que vous les achetez, ces anciens vêtements, ces vieux vêtements? Comment ça fonctionne concrètement?
Nous, on va venir acheter le fil, en fait.
D'accord.
Pas directement les vêtements. C'est ceux qui s'occupent du recyclage qui vont venir, eux, acheter les vêtements pour ensuite... Il y a tout un travail de tri qui est fait par le relais aussi, parce que les vêtements qu'on met dans les bornes du relais, certains sont en très bon état.
Oui, ils peuvent être revendus à
bas prix. Et d'autres, par exemple, qui vont avoir un trou dans un jean ou des choses comme ça, vont partir au recyclage.
Voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous y retrouvez, vous, en tant qu'homme, dans cette façon de travailler? Ça correspond à vos valeurs?
Oui, tout à fait. Sinon, on ne le ferait pas. C'est quelque chose qui correspond à nos valeurs et qu'on a envie de démocratiser un maximum. Et pour aller plus loin aussi, on permet à nos clients de reverser 10% de nos bénéfices à des actions sociales ou environnementales.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'en un an, on a transplanté une trentaine de corons en Indonésie, on a enlevé 15 tonnes de déchets dans les Alpes françaises, on a aidé 5 micro-entrepreneurs et aidé aussi 6 patients qui avaient besoin de traitement dans des pays en voie de développement.
Ah oui, c'est
fabuleux. Donc on va plus loin, on est en amont de la production et on essaye aussi d'avoir un impact positif en aval après.
Et qui vous a aidé à financer votre entreprise, à vous lancer?
Au départ, on s'est lancé il y a un an,
ouais.
Un petit peu plus d'un an. C'était en juin 2016 par une campagne de crowdfunding sur le site KissKissBankBank. On avait mis nos premiers produits en vente, c'était des t-shirts. Et en quelques semaines, on a eu, en moins de 2 semaines, on a eu plus de 700 contributeurs qui nous ont aidés.
Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, une attente, une prise de conscience des consommateurs.
Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de consommateurs qui cherchent à s'habiller de façon responsable, tout en gardant, et qui veulent que ça se démocratise avec des produits de tous les jours,
Ça,
le recyclage était beaucoup utilisé et beaucoup utilisé dans des industries un peu plus techniques, on va dire, par exemple dans des vestes de ski ou des choses comme ça, c'est pas vraiment des produits de tous les jours.
Tout à fait. Alors, il y a une récente étude qui dit que 90% des Français disent préférer un produit français si le prix est équivalent à un autre produit fabriqué beaucoup plus loin. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour acheter du Made in France?
Alors, On n'a pas encore lancé notre produit qui sera lancé à la fin de septembre.
Sur ce que vous lancez, sur ce que vous avez déjà en boutique ou sur le site internet. Les t-shirts, par exemple.
Ah, les t-shirts ne sont pas faits en France.
Les t-shirts sont pas faits en France, mais sur le pull qui sera lancé à l'automne.
Moi, je pense qu'il y a un véritable enjeu par rapport à ça, mais l'enjeu, il va plus loin, c'est-à-dire que nous, on dit qu'on va faire la confection là où les technologies de recyclage sont disponibles. Ouais. C'est-à-dire que la technologie de recyclage qui est disponible en Inde n'est pas disponible en France, et celle qui est disponible en France, de façon réciproque, n'est pas disponible en Inde, en fait. Il y a aussi d'autres technologies de recyclage en Italie, par exemple, où on peut, à partir d'anciens filets de pêche, faire des maillots de bain.
Ouais.
Et donc, dans ces cas-là, il est logique aussi de faire la confection, donc, en Italie.
En Italie.
Donc, je pense que c'est vraiment une démarche, plus que le Made in France, c'est une démarche globale qui dit, voilà, dans un endroit, il y a une technologie de recyclage. On va essayer de faire la confection au plus près aussi pour limiter les transports entre les différents intermédiaires.
Et pour garder aussi le travail sur place.
Tout à fait.
De l'humain. Mmh. Vous y veillez, ça.
Tout à fait, oui.
On se retrouve tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Mathieu Kouako, un des fondateurs de la société Opale, toute jeune entreprise écolo-textile. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Ces premières questions, nous sommes en plein dans les valeurs et dans l'éthique. Jean-Marie, première question à notre invité.
Oui, alors je vais pas revenir sur ce que vous avez déjà dit en matière de valeurs ou de choix ou même d'éthique, hein, dans certains cas, mais peut-être me tourner vers vos clients, parce qu'on n'a peut-être pas tellement parlé tout à l'heure de votre propre chef. Je crois que c'est intéressant de sentir quelle est votre clientèle, comment elle vient chez vous, comment elle peut se fidéliser, comment s'est-elle développée et comment vous la voyez, vous, cette clientèle. Finalement, quelle est votre relation avec la clientèle?
Alors, on distribue nos produits sur notre site, donc opale.com. C'est notre seul canal de distribution aujourd'hui.
Vous n'avez pas de boutique.
On n'a pas de boutique. On n'est pas distribué en boutique. Donc, c'est notre seul canal de distribution. Donc, nos clients viennent par Internet, nous connaissent principalement par Internet et aussi par les relations presse, on va dire. Donc, comme aujourd'hui, il y a des personnes qui vont nous découvrir. Voilà, on a des clients qu'on essaye d'impliquer dans des causes, comme je disais tout à l'heure, avec notre concept des 10% de nos bénéfices reversés à des causes sociales et environnementales. Ça permet de fédérer une véritable communauté autour d'actions concrètes qui sont réalisées par la suite, par des associations qui font très bien le travail sur le terrain. Donc ça permet de fidéliser une communauté et on a des clients qui reviennent faire plusieurs achats de nos produits parce qu'ils sont convaincus en fait. Il y a aussi une petite barrière, on va dire. Parfois quand on pense recycler, on se dit « Ah, c'est recyclé, c'est de moins bonne qualité. » En fait, c'est faux, c'est un a priori qu'on peut avoir. Un vêtement recyclé n'est pas de moins bonne qualité, il est de tout aussi bonne qualité et on ne s'amuserait pas à faire des vêtements recyclés si on savait qu'ils étaient de moins bonne qualité. Donc pour nous, la priorité, on va dire, c'est d'avoir un vêtement qui dure autant qu'un vêtement entre guillemets non recyclé, un vêtement normal, qui soit tout aussi esthétique, qu'il ait les mêmes caractéristiques. Donc si c'est un pull qui soit tout aussi chaud, si c'est un t-shirt qui soit tout aussi résistant,
solide, ouais,
voilà,
ouais.
Dans le temps.
Donc vous lancez un pull 100% made in France, à fabriquer donc en France, avec des produits récupérés, recyclés. En France. Qu'est-ce que vous pensez du marché Made in France aujourd'hui?
C'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs.
Ouais.
Et c'est un marché qui veut, je suis désolé, mais un peu tout et rien dire parfois aussi. Ce qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de la valeur qui soit réalisée en France. Donc il est possible de faire la confection d'un produit, que ce soit des vêtements ou autre, une partie quelque part, et en fait de faire les finitions en France, et ça devient du Made in France.
Ou la transformation,
France. Il faut que ce soit en termes de valeur. Enfin, c'est quelque chose qui peut devenir facilement un peu négociable, qui peut être contourné. Après, je pense qu'on ne peut pas berner ses clients, et que la transparence chez Opale, nous, c'est notre fer de lance, et donc voilà, on dit, là, nous, c'est du 100% Made in France que les vêtements sont récupérés par le relais Sud-Ouest, ensuite transformés dans un atelier dans le Tarn et ensuite assemblés dans la Loire. Donc, voilà, on limite au maximum les acteurs et les distances entre tous.
C'est pas assez réglementé, d'après vous ?
Je sais pas si c'est une histoire de réglementation. Après, c'est une histoire aussi de est-ce que les gens veulent jouer le jeu
d'éthique.
Du Made in France et d'éthique. Je pense qu'il y a à la fois, certes, la réglementation, mais à la fois le savoir comment est-ce qu'on veut se comporter par rapport à ses clients et par rapport à la communauté qui nous soutient derrière. Donc, savoir si donc ça ne nous dérange pas de produire entièrement en Inde et de le faire très bien en Inde.
Et de le préciser, de l'indiquer.
Et de le dire. Je pense qu'il n'y a aucune honte à... Enfin, c'est pas parce qu'on produit en Inde que c'est mal. Ça aussi, c'est des préjugés qui sont faux et un peu faussés aussi par rapport à ce qu'on voit. Et bah, quand on pense à l'Inde, les gens s'imaginent peut-être pas un atelier entièrement approvisionné avec de l'énergie verte, qui est une zero waste company, c'est-à-dire que tout ce qui rentre est transformé, il n'y a aucun déchet qui va en ressortir. Voilà, c'est des choses qu'on a peut-être encore un peu du mal à intégrer aujourd'hui.
Des messages qu'il faut faire passer, oui, c'est ça. Jean-Marie.
Pour laisser plutôt un commentaire, hein, d'abord, je crois que c'est intéressant que vous fassiez partie des entreprises qui arrivent à faire travailler à la fois des pays émergents, en développement, etc., et dans des conditions saines du point de vue technique, écologique, et en même temps en France. Je trouve que c'est très intéressant que votre double filière, parce que c'est un bon exemple, je connais d'autres entreprises qui ont fait des choses analogues, et c'est très intéressant de sentir qu'on ne délocalise pas, mais qu'on est capable de faire travailler davantage de monde, à la fois loin et tout près.
Et que c'est complémentaire.
Et que c'est complémentaire et que c'est le succès de l'entreprise éventuellement pour tout le monde. Je crois que c'est très intéressant à sentir. Parce que ça, c'est de l'éthique humaniste au niveau du globe. Bon. Oui, alors, question. Votre entreprise est toute petite, si j'ose dire, même si elle a un chiffre d'affaires qui est grossi.
Vous êtes 4, c'est ça. Exactement.
Vous êtes 4. Et est-ce que vous la voyez grossir? Comment feriez-vous? À quoi pensez-vous? Finalement, est-ce que ce petit noyau de 4 est en mesure de faire vivre une grande expansion? Ou vous avez peut-être de nouveaux projets? Et puis, sur quelle personne souhaiteriez-vous vous appuyer?
Alors, aujourd'hui, on est 4. C'est vrai qu'on intègre tout ce qui est design de produits, confection, des choses comme ça. À terme, on va bien sûr faire grossir cette équipe pour intégrer de plus en plus de compétences clés qui permettent aussi notre développement. Aujourd'hui, à 4, on arrive à faire beaucoup de choses, mais il faudrait qu'on soit plus pour faire encore plus de choses, si j'ose dire. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à intégrer et beaucoup de compétences qu'il faut qu'on intègre en interne.
Donc vous comptez vous développer?
Oui.
C'est l'objectif?
Oui, l'objectif c'est de nous développer bien sûr, de pouvoir habiller nos clients de la tête aux pieds
bien
et
sûr.
De démocratiser au maximum le recyclage aujourd'hui.
Donc élargir la gamme de produits également,
tout à fait.
De services.
Dans notre optique, c'est d'avoir, comme on dit, c'est le plus bel impact sur l'homme et l'environnement. Donc aujourd'hui, le recyclage, c'est une solution viable pour avoir le moins d'impact possible, on va dire, tout en faisant des vêtements. Mais on est en veille permanente, à l'affût d'autres procédés qui pourraient être encore moins impactants ou de nouvelles technologies de recyclage. Je disais tout à l'heure, à partir d'anciens filets de pêche, il y a aussi du recyclage de peau d'orange pour faire des fils. Il y a voilà, des personnes qui travaillent sur plein d'innovations et on est vraiment à l'affût de tout ça pour la suite, pour notre développement.
Aider également certains métiers à revenir en France. Je pense par exemple à des métiers comme couturier, couturière. Est-ce que ça, vous l'envisagez ?
Aujourd'hui, on fait travailler des couturiers, des couturières dans les ateliers avec lesquels on travaille dans la Loire.
Uh-huh.
Aujourd'hui, on n'envisage pas d'intégrer ces compétences, du moins pour la production, parce qu'on n'a pas une production assez forte. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire travailler quelqu'un toute la semaine sur nos productions.
Uh-huh.
Mais à terme, c'est des compétences qui peuvent être intégrées aussi, du moins pour la partie prototypage.
Pour le tissage, peut-être, aussi.
En interne, tissage. Ça demande beaucoup d'investissement,
oui, bien sûr.
On va dire, matériel, et d'être certain de pouvoir produire assez aussi pour que ces investissements soient rentabilisés.
Bien sûr. Mais ça peut être une piste.
Ça peut être une piste.
Jean-Marie, une autre question à notre invité.
Est-ce que vous imaginez dans votre futur une implication plus forte d'autres structures lointaines? Vous avez démarré avec l'Inde. Est-ce que vous sentez peut-être d'autres possibilités qui seraient intéressantes à la fois pour le pays que vous faites travailler, mais aussi pour vous?
Mais il y a plein de technologies disponibles. Et on a démarré avec l'Inde aussi, parce que donc on y a passé du temps. Donc c'est plus facile quand on est dans un endroit.
Parce qu'on a compris que c'était un investissement, hein, des mois pour arriver à bien convenir de la façon de travailler ensemble.
Il y a la façon de travailler ensemble, mais il y a aussi, on va dire, le sourcing qui n'est pas évident. Oui. L'Inde, c'est quand même un grand pays avec pas mal de monde. Donc, pour trouver les bons partenaires, c'est tout un effet de réseau qui doit se faire.
Bien sûr, d'établir la confiance. Ouais, exactement. Mmh. Ouais. On parlait du Made in France tout à l'heure. Est-ce que le Made in France plaît à l'international ?
Alors aujourd'hui, nos ventes, elles sont plutôt concentrées sur la France.
Bien sûr.
Bien sûr, le Made in France, c'est aussi
c'est un marché à
un gage de qualité à l'international. Ouais. Pense à toutes les marques de luxe aussi qui sont souvent signées.
Tout à fait.
Même plus que Made in France, qui sont signées à Paris. Mm-hmm. Donc c'est un autre, on va dire un autre marché avec un autre gage de qualité qui est vraiment plus basé sur le luxe. Mais le Made in France me plaît, comme pour certains produits, pardon. Le Made in Italy aussi, on sait que les Italiens sont très forts dans certaines choses, comme les chemises, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, chaque pays a ses spécificités, et c'est vrai que pour la confection, la France aussi. Ouais.
24 ans chef d'entreprise, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous sentez pousser les ailes? Vous avez envie de tout bousculer, de tout changer? Ou vous vous dites, quand même, oui, je l'ai fait?
Non, je pense on réfléchit jamais à ce qu'on est en train de faire. Enfin, du moins, on fait.
Vous êtes dans l'action.
Voilà, on est dans l'action. On essaie toujours d'aller plus loin et d'en faire toujours plus. Donc, on est plus dans une dynamique qu'un moment de réflexion en train de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Est-ce que
pas encore.
Voilà,
ouais.
Le fait de l'âge et qu'on a fait ça directement après nos études, ça nous impacte pas et on n'y pense pas, on va dire, parce qu'on est aussi dans un système et un écosystème où il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça. Et à Toulouse, on est à Atome dans un espace de coworking avec beaucoup d'autres startups. Et voilà, tout le monde est un peu comme nous, donc on va dire qu'on s'en rend pas compte.
Oui, il y a une formidable dynamique autour de vous, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, ouais. Les jeunes gens ont vraiment envie de se lancer, envie de créer, envie d'entreprendre.
Je pense qu'il y a On est dans une génération où il y a beaucoup de gens qui se disent très tôt « j'ai une idée, je vais essayer de la concrétiser ». Et voilà, en plus avec tout ce qu'il y a au niveau du digital aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir prototyper, essayer une idée très rapidement et ensuite de la mettre en place aussi rapidement et après de faire grossir un maximum ce qu'on est en train de créer.
Est-ce que vous sentez que les pouvoirs publics, la société, vous soutient dans ce genre d'approche, particulièrement maintenant? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de créer des fêtes de l'environnement qu'autrefois?
Alors c'est une question un peu biaisée parce que je n'ai pas connu, on va dire,
avant, après.
Non, mais est-ce que vous vous sentez soutenu?
Oui, on est soutenu par différents organismes. Il y a des organismes régionaux, nationaux, notamment la BPI par exemple, qui aide les jeunes entrepreneurs à passer le cap, et qui va les aider. Que ce soit des conseils, que ce soit financier, que ce soit avec des retours d'expérience, il y a plein de réseaux qui soient donc de l'État, de la région, ou même des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux juste de personnes qui se regroupent pour travailler ensemble. Ça, c'est plein d'effets.
Donc, vous sentez un environnement qui est plutôt favorable.
Il y a un environnement favorable
pour ce développement, oui.
Et à Toulouse, un environnement très favorable.
Je crois que c'est intéressant à connaître aussi.
Qui vous donne le goût d'entreprendre.
C'est ça, tout à fait.
Merci à vous. On peut vous trouver facilement sur le net. Rappelez-nous votre adresse.
Alors, c'est le site opal.com, opal.com.
Merci à vous. Vous voulez participer à cette émission? N'hésitez pas à nous contacter, www.radioprésence.com, ou écrivez-nous directement, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.